appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. La journée internationale de l'accès à l'information a été célébrée ce samedi 28 septembre en RDC sous le thème « Impact du nouveau cadre légal sur la liberté de la presse et de l'écosystème de l'information en RDC ». À l'occasion de cette journée, des journalistes congolais se sont retrouvés à l'hôtel Sultani à Kinshasa pour évaluer les avancées enregistrées en RDC sur l'accès à l'information et aussi débattre sur la question de la dépénalisation des délits de presse en RDC. Il a été également évoqué pendant cette activité de l'importance de rendre effective cette dépénalisation de la presse, car à ces jours, des journalistes sont parfois arrêtés ou subissent toutes sortes de menaces dans le cadre de leur profession et par ailleurs n'ont pas toujours la tâche facile pour accéder à l'information. Cette journée a été aussi l'occasion pour le journaliste Patient Ligodi de présenter son ouvrage intitulé « Cadre légal des médias en RDC ». L'ouvrage a été porté sous les fonds baptismaux par le ministre de la Justice Constant Moutap, qui a rehaussé de sa présence ce vernissage. Que vous inspire cette journée internationale de l'accès à l'information célébrée en RDC sous le thème « Impact du nouveau cadre légal sur la liberté de la presse et de l'écosystème de l'information en RDC ». Vos actions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous aussi écrire à l'adresse PIA radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les zones en 9 706 80 79. Alain Goy est à la mise en œuvre de ce magazine. Julie Feza Bongonda a sur la réalisation et la coordination au micro. C'est Marcel Ngomomba. À toutes et à tous, et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Pour participer à Parole aux auditeurs, appelez au 081 890 49 69 ou au 081 890 63 30. Déposez-nous votre commentaire sur notre page Facebook, soit à pa@radiocapi.net. Et pour suivre Parole aux auditeurs en direct, rejoignez-nous sur www.radiookapi.net.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine des champs citoyens Parole aux auditeurs et nous parlons aujourd'hui de la journée internationale de l'accès à l'information qui a été célébrée ce 28 septembre à l'RDC sous le thème impact du nouveau cadre légal sur la liberté de la presse et l'écosystème de l'information en RDC. Nous l'avons dit à l'occasion de cette journée, des journalistes et congolais se sont retrouvés à l'hôtel Sultani ici à Kinshasa pour évaluer les avancées enregistrées en RDC sur l'accès à l'information et aussi débattre sur la question de la dépénalisation des délits de presse en RDC. Il a été également évoqué pendant cette activité de l'importance de rendre effective cette dépénalisation de la presse, car à ces jours, des journalistes sont parfois arrêtés ou subissent toutes sortes de menaces dans le cadre de leur profession et par ailleurs n'ont pas toujours la tâche facile pour accéder à l'information. Nous l'avons également dit, cette journée a été aussi l'occasion pour le journaliste et Patient Ligodi de présenter son ouvrage intitulé « Cadre légal des médias en RDC ». Et voilà, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio justement le journaliste Patient Ligodi. Patient Ligodi, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Voilà, vous êtes journaliste et enseignant en journalisme. Avec vous, on va aborder cette question sur l'accès à l'information. On se rappelle que la journée internationale de l'accès à l'information a été célébrée ce samedi 28 septembre en RDC sous le thème « Impact du nouveau cadre légal sur la liberté de la presse et l'écosystème de l'information en RDC ». Que vous inspire d'abord cette journée et ensuite ce thème?
Il faut dire que, comme on a l'habitude de parfois d'entendre ici, qu'il s'agit des histoires de blancs. Non, c'est pas les histoires de blancs. Évidemment que l'accès à l'information est ancré déjà dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais dans notre pays également, nous avons une constitution qui met un accent sur l'accès à l'information publique, qui est un droit pour la population congolaise. L'article 24 de la Constitution de la République démocratique du Congo, et nous avons aussi aujourd'hui l'ordonnance loi du 13 mars 2023 et qui est un texte qui aurait fait plus ou moins la pratique de l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, qui consacre une fois de plus l'accès à l'information publique. Donc pour les journalistes professionnels, c'est quelque chose ou on va dire un des piliers de la liberté de la presse, un, mais deux, c'est aussi un droit du public, parce que j'ai toujours dit que la liberté de la presse, c'est deux pendants. Un pendant, c'est le droit du journaliste d'accéder à l'information, de traiter l'information et de diffuser librement l'information, mais c'est aussi les droits du public d'accéder à une information plurielle et diversifiée. Et dans les cadres de la nouvelle loi sur l'accès à la nouvelle loi sur l'exercice de la liberté de la presse, on a davantage on va dire ancré pour les journalistes, en tout cas les droits d'accéder à cette information pour améliorer, si vous voulez bien, notre démocratie. Parce qu'on ne peut pas faire de la redevabilité, exiger de la redevabilité aux dirigeants, on ne peut pas demander la reddition des comptes si on n'a pas accès aux informations sur la bonne marche de notre pays.
Mais on le sait déjà, c'est pas facile d'accéder à l'information ici en RDC. Voilà pourquoi même il y a certains journalistes qui se plaignent de ça, parce que ça ne facilite pas le travail. Alors, si on doit parler de l'impact du nouveau cadre légal sur la liberté de la presse et l'écosystème de la France en RDC, qui a été même le thème de cette journée internationale de l'accès à la presse, de l'accès à l'information qui a été célébrée, c'est samedi 28 septembre. Qu'est-ce qu'on peut dire des avancées enregistrées en RDC par rapport à l'accès à l'information?
Alors, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'accès universel à l'information. Les droits du public, de la population, du citoyen, d'avoir accès à l'information. À ce propos, il y a une proposition de loi qui a été déposée depuis 2020 au bureau de l'Assemblée nationale par, à l'époque, le député Moïse Nyarugabo, qui malheureusement n'a pas connu des avancées. Cette proposition de loi fixe, on va dire, les modalités pour chaque citoyen de pouvoir demander à avoir accès à une information considérée d'intérêt public. Donc ça, c'est pour tous les citoyens, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être journaliste pour savoir la bonne marche de votre pays, de votre cité, de votre commune, de votre quartier. Vous avez la possibilité d'aller demander une information qui va vous permettre notamment d'être édifié sur la marche du pays, de votre cité, de votre quartier, de votre commune. Ça, c'est une proposition de loi qui est jusqu'à présent à l'Assemblée nationale, mais qui n'a jamais connu une issue heureuse. Alors, la deuxième partie, c'est en fait essentiellement pour les journalistes, c'est qu'on appelle les droits du journaliste d'accéder à l'information publique. Ce qui est dit dans l'ordonnance loi du 13 mars 2023, la première des choses, c'est ce qu'on appelle la criminalisation de la rétention de l'information à caractère public. C'est-à-dire que si vous travaillez à la commune et que moi, journaliste professionnel, je viens avec ma carte et que j'ai besoin d'avoir une information, vous devrez mettre à disposition cette information. Et si vous ne le faites pas, vous serez considéré comme quelqu'un qui aurait commis un crime parce que vous aurez retenu intentionnellement l'information considérée comme information à caractère public. Ça, c'est une avancée qu'on a dans cette ordonnance loi du 13 mars 2023. Mais malheureusement, on a là un énoncé sur la criminalisation de la rétention de l'information à caractère public, mais on n'a pas encore, on va dire, des sanctions qui vont aller avec.
Mais justement, c'est ce qui ne facilite pas la tâche aux journalistes. On attend souvent des journalistes, c'est-à-dire tous les contacts menés pour avoir plus d'informations, soit par rapport à telle institution, n'ont pas abouti. Oui. Et cela n'est facile pas la tâche.
Oui, mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a la loi. Il faut déjà que les journalistes le sachent, qu'aujourd'hui, on a une loi qui criminalise la rétention de l'information à caractère public. Ça, on ne l'avait pas. Quand on regarde les précédents textes, les textes de 81 sur les statuts du journaliste, les textes de 96 sur l'exercice de la liberté de la presse, on n'avait pas cette avancée. Maintenant, depuis un an, toute rétention de l'information à caractère public peut être poursuivie. Donc, si vous le faites, on peut vous poursuivre. Le travail qui n'est pas encore fait, c'est le travail de la sensibilisation pour que et les journalistes soient au courant, oui, qu'ils peuvent pour, en tout cas mener des démarches pour que l'on puisse poursuivre une un détenteur de l'information à caractère public, et deuxièmement les médias ne savent pas, troisièmement même certains magistrats ne sont pas au courant des avancées de la loi en cette matière maintenant, et au-delà même de magistrats aussi les institutions, la plupart de nos institutions ne sont pas encore au courant de cette nouvelle disposition. Il faut dire évidemment que ça fait un an que le texte a été promulgué par le chef de l'État. Maintenant, tout le travail, c'est faire cette sensibilisation. Je pense que c'est également l'objet de cette émission.
Voilà, justement, il faut faire davantage de la sensibilisation par rapport à cela dont on se rend compte avec cette ordonnance loi, la dictée de mettre des avancées par rapport à l'accès à l'information. Maintenant, c'est aux journalistes de bien s'imprégner de cette loi et de savoir qu'il y a moyen de se plaindre de manière à ce que ceux qui sont censés donner des formations qui ne le font pas puissent être sanctionnés, et cela pourra faciliter la tâche aux journalistes de bien faire leur travail. Alors, un autre aspect, c'est celle de la dépénalisation du délit des presse légalement. Il faut encore des efforts.
Il faut des efforts, mais il y a eu également de grands efforts qui ont été fournis dans le cadre de l'ordonnance loi du 13 mars 2023. Il y a par exemple le fait que aujourd'hui, l'on a institutionnalisé ce qu'on appelle une instance d'autorégulation. Avant, autorégulation, c'est quoi ? Ça veut dire que les journalistes peuvent par eux-mêmes regarder ce qui se passe dans leur métier, dans leur profession, et dire par exemple, non, toi Marcel, toi tu ne fais pas très bien ton travail, on te retire la carte de presse, tu ne fais pas très bien ton travail, on te met une semaine hors d'antenne, ou un mois ou deux mois, et qu'on sort. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autorégulation. Alors, on a également une autre étape qu'on appelle la régulation, et qui concerne, on va dire, les médias, qui est prise en charge par les conseils supérieurs de l'audiovisuel de la communication. À l'époque, ce travail de l'autorégulation était réalisé par l'Observatoire des médias congolais. Aujourd'hui, mais il n'y avait pas de texte qui ancrait l'existence d'un organe, d'une instance d'autorégulation. Aujourd'hui, nous avons, dans l'ordonnance loi du 13 mars 2023, une disposition qui dit avec précision qu'il est reconnu l'existence d'une instance d'autorégulation de journalistes en République démocratique du Congo. Et cet organe-là, cette institution-là, c'est particulièrement l'Union nationale de la presse du Congo, qui a un nouveau comité directeur à l'issue du congrès qui a été organisé il y a pratiquement une semaine à Kinshasa. C'est le rôle d'abord de l'Union nationale de la presse du Congo de pouvoir faire ce travail d'autorégulation, de savoir qui sont les journalistes? Combien de journalistes avons-nous dans notre pays? Et comment deviennent-ils journalistes? Comment ils entrent dans les rédactions? Et comment ils exercent leur travail? Déjà, un, le travail d'identification. Deux, les travails de sanctions si les journalistes commettent de fautes déontologiques. Trois, le travail d'encadrement des formations et consorts. Donc ça, c'est la première des choses. C'est la partie responsabilisation de la corporation journalistique pour arriver à identifier, former et sanctionner les journalistes qui se retrouveraient en faute. Une fois que cette responsabilisation est, on va dire, assumée par l'Union nationale de la presse du Congo, l'on peut, dans ces cas-là, arriver à avoir moins des problèmes au niveau des cours et tribunaux. C'est vrai que les infractions de presse en RDC sont toujours attachées, on va dire, au code pénal. C'est-à-dire que si vous commettez des imputations dommageables ou une diffamation, par exemple, vous pouvez aller en prison et c'est dans notre code pénal. Alors le travail qui est fait, c'est-à-dire si vous, journaliste, vous ne voulez pas aller en prison, commencez par vous-même déjà, par nettoyer dans votre corporation, avoir des journalistes qui sont connus, des journalistes qui sont formés, des journalistes qui sont responsables et qui peuvent aujourd'hui être redevables vis-à-vis de la population. Mais ce travail-là est en cours. Le comité directeur de l'UNPC a été installé bientôt une semaine. Maintenant, il va falloir regarder comment ce travail-là va être fait. Deuxième chose, c'est également un travail de rédaction. C'est-à-dire que nos rédactions, dans la nouvelle loi, dans l'ordonnance loi du 13 mars 2023, on définit qui est journaliste, avec journaliste professionnel, un statut clairement défini. On dit qu'il faut avoir une licence dans une école de journalisme qui est reconnue. Il faut avoir, si vous l'avez pas, ces diplômes-là, vous avez au moins une licence en journal, dans un autre domaine, mais vous avez pratiqué au moins 5 ans, et cette pratique journalistique-là sur l'État, associée avec votre diplôme que vous avez obtenu plus tôt, vous permet notamment de prétendre devenir journaliste professionnel. Maintenant, aux rédacteurs en chef, aux entreprises qui recrutent, de pouvoir rentrer dans ce nouvel ordre qui a été mis en place par l'ordonnance loi de 2023. Ça, c'est pour encadrer la pratique journalistique et éviter que les fautes commises par les journalistes soient toujours sanctionnées par le fait d'envoyer les journalistes devant les cours des tribunaux ou encore de les envoyer en prison.
Et d'ailleurs, ça a été évoqué, parce qu'il faut que je le rappelle, à l'occasion du vernissage de votre ouvrage cadre légal des médias en RDC, ça a été rappelé par le nouveau président de l'UNPC qui était présent à cette cérémonie. Et c'est l'occasion pour nous de dire rapidement sur cet ouvrage cadre légal de médias en RDC. Quel est l'important de cet ouvrage et pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé cet ouvrage?
Il faut dire que j'ai participé aux états généraux de la communication et des médias. J'étais particulièrement dans la commission viabilité des médias. Ces états généraux ont été organisés en 2022 et ont réuni plus de 200 praticiens du journalisme. Et là, on a dressé, on va dire, des lignes pour améliorer, pour rendre beaucoup plus efficace l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Et donc, c'est de ces états généraux de la presse, des médias et de communication qu'ont été, c'est de là qu'on a pu amener ou travailler davantage la nouvelle loi. Donc la nouvelle loi sur l'exercice de la liberté de la presse est une émanation des travaux des états généraux. Et je suis aussi membre du comité de suivi de recommandations de ces états généraux. Ce que je voulais faire au travers de ces livres, c'est de ressortir l'esprit des échanges qu'on a eu pendant les états généraux, les recommandations qui ont été données et analyser l'impact de ces nouveaux textes sur l'écosystème de l'information. Qui est journaliste aujourd'hui par rapport à hier? Comment on finance l'information en République démocratique du Congo, donc l'économie des médias, ce qui était prévu dans les anciennes lois et où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec la nouvelle loi? Il y a également des questions liées aux médias publics. Quelle est la pensée aujourd'hui de l'autorité publique par rapport aux médias publics? L'idée pour moi, c'est vraiment de pouvoir présenter l'impact de ces nouveaux textes dans l'écosystème général de l'information pour les publics, pour les journalistes, pour les magistrats et pour la démocratie.
C'est-à-dire que le journaliste doit s'imprégner de ce cadre légal de manière à ce qu'il puisse travailler en toute légalité. C'est vraiment l'avantage de cet ouvrage.
À quatre niveaux. D'abord, les journalistes, connaître la nouvelle loi et l'implication par rapport à ce qu'il fait comme travail et par rapport aux différentes sources qu'il contacte pour son travail. Deuxième niveau, c'est par exemple pour les magistrats de savoir qu'ils ne peuvent pas envoyer des journalistes en prison et condamner sans se référer aux nouvelles dispositions. Par exemple, il y a une des dispositions qui dit qu'il faut tenir compte de la mauvaise foi du journaliste quand il publie par exemple une fausse information. En lieu et place de le condamner directement, est-ce qu'il y a des indices de mauvaise foi de la part du journaliste? Il corrige rapidement cette information, est-ce que ça vaut toujours la peine de l'envoyer en prison? Ça, il faut faire ce travail-là aussi au niveau des magistrats pour qu'ils s'en imprègnent. Et troisième niveau, c'est au niveau des institutions de la République pour qu'ils sachent qu'aujourd'hui, il y a un nouvel écosystème légal de l'information pour qu'ils rendent disponibles plus ou moins les informations considérées comme informations à caractère public pour les journalistes. djihadistes. Et quatrième niveau, c'est pour que les publics congolais, la population congolaise, sache que le droit qu'il a aujourd'hui pour avoir accès à une information plurielle et diversifiée. Donc c'est vraiment un ouvrage que nous mettons à la disposition et des praticiens et de ceux qui consomment les informations pour connaître les droits et devoirs et exiger ce qu'ils peuvent exiger pour la bonne marche de notre démocratie.
Voilà, Pasteur Ligodeur, reviens-vous, on va ouvrir le standard. Il y a déjà des auditeurs qui aimeraient bien intervenir. Nous avons Franck qui nous appelle depuis Vienne en Autriche, également Maître Patrick Odia qui est à Lubumbashi, c'est un RDC. Bienvenue. Si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de la journée internationale de l'accès à l'information qui a été célébrée ce samedi 28 septembre en RDC sous le thème Impact du nouveau cadre légal sur la liberté de la presse et l'écosystème de l'information en RDC. Pour en parler, nous avons dans ce studio notre confrère Passion Ligodi qui est journaliste et enseignant en journalisme et elle a profité également de cette journée pour présenter son ouvrage intitulé Cadre légal des médias en RDC. Si vous voulez intervenir, je rappelle le numéro d'appel saison 9-7-6-80-79.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Franck nous appelle depuis Vienne en Autriche. Franck, vous avez la parole, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup pour la parole. Nos cordiales salutations à tout le monde. Nous sommes des cœurs en guise de gratitude avec tous les acteurs de la presse dans son intégralité, de la presse orale ou écrite, de la presse audiovisuelle ou télévisée, et également de la presse en ligne. Car nous savons que sans les efforts de la presse pour nous informer et aussi nous instruire, sans l'accès à la bonne information surtout, nous serions tous comme des grands naïfs ou des aveugles intellectuels. C'est parce que à travers l'accès aux bonnes informations que nous arrivons à ajouter quelques plus dans nos vies et cela impacte totalement notre manière de raisonner, de réagir dans la société par rapport à tout ce qui se passe. Cependant, quant à ce qui concerne cette corporation journalistique chez nous, il y a trop à dire et il y aurait trop à commenter. Sans pour autant généraliser la pratique des abus et excès sur certains faits sociaux dont nous condamnons tous les méfaits et les désorientations, il y a lieu de rappeler que chez nous, en République démocratique du Congo, la crise des valeurs et des vertus qui caractérise la nature humaine de la plupart de nos compatriotes impact également négativement sur les rayonnements et fonctionnements de plusieurs corporations et cela ne se limite pas seulement au niveau de ceux de la presse. C'est pourquoi tout ce qui peut se faire organiser en guise de réformes, en guise de promulgation des lois organiques, en guise de congrès organisés ici et là, formation quoi, cela n'ajouterait vraiment rien sans la bonne moralité de l'homme congolais, sans cet équilibre humain. C'est comme ça que nous devons toujours encourager ce qui se fait positivement et aussi interpeller parce que la plus grande difficulté, c'est le fait de pouvoir politiser la plupart de nos organes de presse. Et quand une telle corporation est politisée, les conséquences sont là en face de nous. Je crois me limiter là.
Voilà, merci Franck d'avoir réagi depuis Vienne, mais vous avez suivi notre invité qui a reconnu qu'il y a des avancées. Je pense que vous êtes bien d'accord par rapport à cela, mais le plus grand problème est non, c'est l'accès à l'information. Il y a des avancées par rapport à cela, parce qu'avec cette ordonnance loi qui essaye de bien circonscrire le cadre légal de travail pour les journalistes, vous pensez vraiment que cela peut améliorer les conditions de travail de journaliste en RDC pour ce qui est du cas de l'accès à l'information?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui par rapport à tout ce qu'il a dit mon cher ami Marcel, mais le problème c'est que on peut avoir des avancées sur le plan légal, mais si c'est pas correctement appliqué, si toutes ces avancées, toutes ces lois ne sont pas correctement appliquées par rapport aux concernés, c'est là où nous avons tous les problèmes. Nous avons des bonnes lois qui ne sont pas appliquées. Et parfois, moi, j'aime bien répondre à vos questions de manière analogique. Je crois que on peut vous préparer de la bonne viande, on peut vous donner un très bon bonbon, mais pour le consommer, il faut d'abord enlever le sachet, le papier d'emballage. Donc, vous ne me diriez pas qu'on peut consommer un bonbon avec son papier d'emballage. Et on peut avoir des bonnes lois, des avancées théoriques sur les plans des textes, sur les plans des efforts. On a travaillé, on a promulgué, mais si c'est pas appliqué, à quoi ça sert de promulguer, de travailler, de publier des textes que vous ne savez pas utiliser, que vous ne savez pas matérialiser? Et c'est tout ce que nous avons toujours dénoncé sur vos ondes. Nous avons des lois et des très bonnes lois, mais nous avons un problème au niveau de la conception humaine. C'est l'homme congolais qui, dans son ensemble, dans beaucoup de corporations, je ne me limite pas seulement à la corporation journalistique, mais si on doit commencer à répertorier, c'est partout que nous nous rendons compte que les mêmes problèmes se posent, les mêmes défauts se constatent. Et je crois que par rapport à ma vision, il y a lieu d'abord d'interpeller l'homme congolais pour faire des efforts pour arriver à intérioriser certaines valeurs citoyennes afin d'être à mesure de répondre à toutes ces attentes citoyennes.
Voilà, merci beaucoup Franck depuis Vienne. Maître Patrick Odia, vous êtes à Lubumbashi, vous avez la parole.
Bonjour Martin, bonjour à Patrick Ligodi et à tous les auditeurs de la radio Kapi. Le 28 septembre, c'est un monde, le monde a célébré cette journée mondiale de l'information. Rappelons d'emblée que cet événement a un caractère crucial, hein, qui rappelle le rôle essentiel, voire même fondamental du journaliste, et surtout de la cybersécurité, cybercriminalité, du fact-checking, et tout ce qui va avec. Et je suis content d'être aujourd'hui en face de Monsieur Patient Likodi, que j'ai toujours apprécié de loin, qui bat un travail sur le fact-checking. Mais je pense qu'en tant que journaliste, il devrait non seulement apporter son apport sur le plan légal, mais aussi il faudrait aussi qu'entre et corporations, qu'il y ait un travail d'égalité à l'interne, dans les associations, dans les ACBL. Patient Likodi, en tant qu'enseignant, en tant que professionnel, l'un des meilleurs professionnels de la plume au niveau de la RDC, pourquoi pas de l'Afrique et du monde entier, je pense qu'il n'est pas d'accord avec une certaine désorganisation ou un certain désordre qui est au sein des journalistes. Il suffit aujourd'hui d'être pro-pouvoir ou d'être opposant, d'être ceci. Il y a les autres même qui s'appellent les engagés, les désengagés et les ceci. Je pense que les responsabilités sont à partager. D'abord en commençant par une formation continue. Nous sentons que l'INPC ainsi que d'autres structures qui peuvent intervenir dans la régulation ou l'autorégulation ne font pas réellement leur travail. Mais alors, un journaliste fait un tel travail dans cette journée, lors de cette journée, faudrait-il condamner? Non, il faut encourager, mais lui dire également que produire ce cadre légal n'est pas suffisant. Dans ce pays, nous avons des lois, mais il faudrait également interpeller les gouvernants, parce que nous avons aimé la présence du ministre de la Justice qui a pris part également pour que les responsabilités qui sont les siennes soient également assumées en bon escient également comme père de famille, comme un exécutif responsable. Bref, il y a lieu de pouvoir renforcer ces cadres légaux. La dépénalisation, c'est bien beau. Mais quelle sera la suite logique de ces journalistes, entre guillemets, qui continuent ou qui continueraient toujours à en abuser de cette faveur légale de la dépénalisation? Il faudrait également voir post-dépénalisation. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour nuire. Mais au nom de la profession de journaliste, parce qu'il a sa carte de journaliste, mais ils sont là pour nuire. Parce
voilà, qu'il a pris merci maître Patrick.
Je voudrais citer, Martin.
Oui, rapidement. Je voudrais citer en disant
que M. Likodi interpelle également ces journalistes qui continuent à former. Je les vois dans d'autres formations. Combien de journalistes viennent au...
Mais voilà, vous avez demandé qu'on mette d'abord de l'ordre au sein même de la corporation. Ça a été évoqué par notre invité. C'est d'ailleurs la tâche à laquelle va s'atteler le nouveau comité du l'UNPC. Merci, maître Patrick Odia, depuis le Lubumbashi. On reste toujours à Lubumbashi pour écouter cette fois-ci Pierrot Kabeya. Pierrot Kabeya, vous avez la parole.
Allô, bonjour, monsieur le maître. Bonjour à notre invité. Bonjour à tous les auditeurs.
Alors, Pierrot Kabeya, dynamisez un peu votre voix. Alors, on vous entend très mal. Je ne sais pas si c'est à mon niveau. Alors, je ne vous entends pas très bien. C'est de dynamiser votre voix. Parlez un peu plus fort, si possible.
Oui, je disais bonjour à notre invité. Je disais bonjour à tous les auditeurs. Je ne sais pas si vous me suivez.
C'est bon. Allez-y. On vous écoute. Allez-y.
Oui, j'ai bien suivi notre... pour votre invité qui est sur le plateau, je suis très content de son analyse. Moi, je suis opérateur économique. Quand il a parlé de la rétention des informations, nous, les opérateurs économiques, quand nous recevons, par exemple, des inspecteurs qui viennent, ils nous cachent certaines informations. Quand vous leur posez des questions, ils ne vous disent pas toute la vérité. Ce n'est qu'après qu'ils reviendront avec des pénalités. Alors, je pense que cet accès à l'information, ça nous concerne aussi les opérateurs économiques. Ils doivent mettre à notre disposition toutes les informations. Mais dès lors qu'ils nous cachent, alors ils nous mettent un peu dans une certaine insécurité. Alors, je voudrais que notre invité puisse un peu aussi marteler sur ce point-là.
Voilà.
C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Pierrot Kabiya. Vous êtes, je pense que vous avez déjà intégré le groupe WhatsApp de Parole aux Auditeurs.
Oui.
Bon, c'est très bien d'avoir intégré. Continuez à en parler. Continuons à en parler autour de vous. Merci Pierrot Kabiya et bonne journée à vous à Lubumbashi. On revient à Kinshasa et on va écouter
Merci.
On va écouter Maître Yves Mouyaya qui nous appelle depuis Kinshasa. Maître Yves Mouyaya, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Merci Marcel. Je salue l'invité patient. Je suis très content du sujet d'aujourd'hui. L'accès à l'information dans notre pays est d'une importance capitale. Vous savez, sur ce chemin, nous avons réalisé quand même un grand pas dans la mesure où dans ce pays, il n'y avait qu'un seul média. Aujourd'hui, il y a plusieurs médias. Les journalistes ont une certaine liberté par rapport à l'exercice de sa profession pour accéder à l'information. Parce que vous savez, dans un pays comme le nôtre où la corruption est en train de miner les pays, les détournements de biens publics et tant d'autres antivaleurs, je crois que l'accès à l'information est d'une importance capitale parce que c'est les journalistes qui peuvent rapporter l'information correcte à la population pour savoir comment est-ce que il peut opérer son choix. Seulement, nous sommes en train de regretter que les foisonnements des médias et les comportements des journalistes qui ne donnent pas une bonne impression aujourd'hui parce que la plupart des journalistes aujourd'hui ne sont pas formés, ne sont pas professionnels. J'aimerais relever le fait que non seulement il y a la liberté qui entraîne l'accès à l'information, mais aussi il doit y avoir ce qu'on appelle l'objectivité dans le traitement de l'information. Je crois, merci Marcel, vous allez constater que dans notre pays, l'objectivité dans le traitement de l'information est quasiment inexistante parce que les journalistes deviennent beaucoup plus subjectifs. Hein. Lorsqu'ils donnent l'information, c'est comme si il était concerné lui-même. Hein. C'est comme si il est lui-même chercheur de l'information qui les concerne lui-même. Et donc ça ne fait pas favoriser.
Voilà, merci, merci Maître Yves. On a compris. Pour vous, il faut mettre également de l'ordre au sein de la corporation. Et notre invité, elle avait évoqué certainement. Il va revenir. Merci d'avoir appelé depuis Kinshasa. Et avant de retrouver mon invité, Pascal Ligodi, je m'en vais lire quelques réactions sur la page Facebook par aux auditeurs. Il y a celle de Roger Dissidi qui nous écrit depuis Kananga. Merci de la thématique. Je dois savoir en RDC qui est-ce que et nous pouvons appeler journaliste. Ici au Kasaï Central, c'est grave. Tout celui qui a fait l'université journaliste, il part du n'importe quoi à la radio car il ne vérifie pas l'information avant la diffusion. Au Kasaï Central, les débats politiques battent record sur toutes les chaînes de radio. C'est pourquoi les journalistes sont victimes des arrestations incontrôlées. C'est Roger Dissidi depuis Kananga. Une autre réaction, c'est Junior Teizanga qui nous écrit la bonne commémoration de cette journée pour faire l'objet d'un débat autour d'une table cherchant à trouver une solution par rapport à l'impact des réseaux sociaux sur la communication tels que TikTok, dont la plupart des journalistes utilisent abusivement sans respecter la loi du pays ni les codes numériques. Voilà, vous avez été nombreux à réagir sur la page Facebook. Parole aux auditeurs, nous vous disons merci. Nous ne pouvons pas lire toutes vos réactions. Voilà, Pasteur Ligodi, vous avez suivi les réactions des uns des autres. Il y a ceux qui estiment qu'il faut d'abord commencer aussi. On avait d'ailleurs évoqué mettre de l'ordre au sein de la corporation. Il y a ceux qui estiment également qu'il y a des avancées, mais seulement dans ces pays, les lois. Il y a des bonnes lois, c'est souvent l'application qui pose problème. Il avait aussi ses réactions intéressantes d'un opérateur économique et qui a parlé également des difficultés de fois qu'ils ont pour l'accès à des formations avec des inspecteurs. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à tout cela?
J'ai noté qu'il y a, c'est revenu plusieurs fois, une crise de valeurs dans notre pays. Évidemment que la crise de valeurs existe. C'est pas simplement dans les rangs des journalistes, mais c'est quand même grave que les journalistes se retrouvent dans cette crise de valeurs. Mais il faut pas oublier que ces journalistes sortent de nos familles, sortent de nos sociétés, sont formés dans les mêmes conditions que tout le monde. Donc il y a un contexte général qui est que le cardinal Mossengo appelait le contexte de médiocrité. Et il va falloir faire un grand travail pour relever les niveaux. Moi j'ai toujours dit que même pour nous tous, pour avoir de la bonne information, il suffit pas de suivre la radio, la télévision, la presse écrite. Il faut ajouter à la presse écrite, à la radio, à Internet et consorts une bonne dose de connaissances générales à travers notamment les livres, à travers notamment les rencontres, à travers notamment les conférences, à travers notamment les voyages et les rencontres et consorts. Mais il faut également ajouter une très bonne dose de l'esprit critique. Mais cet esprit critique, pour l'avoir, il faut l'exercer, il faut être en contact avec de la contradiction. Mais nous, au niveau de la corporation des journalistes, il y a plusieurs niveaux pour arriver à intervenir. On a ce qu'on appelle la régulation, je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire que le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication a une grande responsabilité sur le contenu des médias. Et qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est raconté, qu'est-ce qui est diffusé? Et ça, c'est le rôle du Conseil supérieur de la communication qui peut aujourd'hui arriver à faire sanctionner certains médias, fermer certains médias, faire fermer certains médias. Mais là encore, il faut une bonne collaboration avec la justice, parce que le CSAC seul ne peut pas. Donc il faut évidemment faire le constat, un bon monitoring pour détecter là où il y a des problèmes dans les médias et déférer s'il y a déféré devant la justice. S'il faut fermer, il faut fermer. Deuxième niveau, c'est le niveau de l'autorégulation, c'est-à-dire nous-mêmes, les journalistes, à travers ce qu'on appelle les tribunaux de pairs, les journalistes qui se regardent, qui se contrôlent, qui se sanctionnent en disant celui-là il n'est pas journaliste, celui-là il a commis une faute déontologique, comment on arrive à gérer ce travail et faire en sorte que ce travail d'autorégulation ne se limite pas à Kinshasa, mais rentre également au niveau des provinces, au niveau des territoires, au niveau des cités, au niveau vraiment de la communauté. Le troisième niveau, c'est le niveau de la co-régulation, cette co-régulation avec notamment les instances, ce qu'on appelle les organisations professionnelles des médias. L'association de la presse écrite, l'association des radios, l'association de la presse en ligne et consorts, pour faire un travail avec les CSAC, l'Union nationale de la presse du Congo, pour que chacun puisse balayer devant sa porte et faire un travail de synergie. Et un autre niveau, c'est au niveau international. Il faut que l'on s'arrime également au standard international en termes de régulation, parce que aujourd'hui, par exemple, on a parlé des TikTok, on a parlé de réseaux sociaux. On ne peut pas réguler les réseaux sociaux essentiellement en se basant sur le Congo, parce que nous n'avons pas forcément la maîtrise de tout ce qu'il y a comme algorithme.
Vous avez même écrit un ouvrage par rapport à tout ce qu'il y a comme fake news, comment dénicher les fake news.
Pollution de l'information a été présentée au début de cette année. Donc il faut un travail des synergies pour sortir justement de cette crise des valeurs. Il faut aussi, au niveau de nos familles, faire ce qu'on appelle l'éducation aux médias. C'est-à-dire que quand vous avez un enfant, il faut lui dire, il faut lui montrer comment on consomme les médias. Quand on voit ceci sur les médias, qu'est-ce que ça veut dire? À quel âge on peut avoir ceci? On peut regarder cela, on peut discuter de cela. Le rapport avec les écrans, les rapports avec ce qu'on appelle les influenceurs, les rapports avec les différentes vidéos que nous voyons sur les plateformes numériques et consorts. Mais ça, ce n'est pas le travail d'une seule personne. C'est pas forcément le travail seulement des journalistes, c'est le travail de l'ensemble de la société au travers notamment de ce que j'ai appelé régulation, co-régulation, autorégulation, mais aussi un travail de régulation à l'international. On a parlé de la formation. C'est vrai que dans tous les pays, on n'a pas des écoles dans tout notre pays, on n'a pas les écoles de journalisme, mais il faut se dire que tout le monde ne peut pas avoir accès au micro. Pourquoi ? Parce que le micro, c'est un danger permanent, parce que ça peut embraser un pays.
Un couteau à double tranchant.
À double tranchant. Ouais. Et moi, je dis toujours que les micros, c'est une matière hautement inflammable. C'est comme vraiment du carburant. C'est-à-dire, autant ça peut vous aider à avancer avec votre véhicule, autant ça peut également embraser votre village et consort. Donc, il faut que ceux qui accèdent au micro puissent être plus ou moins outillés, sensibilisés aux conséquences de la prise de parole publique. Tout ce qu'on voit comme communicateur politique à la télévision, tous ceux qui participent aux émissions dans des différentes radios, que ce soit radio communautaire, radio associative et confessionnelle, est-ce que justement ils ont non seulement la formation, l'étoffe, mais est-ce qu'ils pèsent, on va dire, le poids de ce qu'ils portent comme parole? Et ce travail-là peut être fait avec la conjonction de la régulation, la co-régulation, l'autorégulation, un travail d'ensemble.
Mais parce que vous avez suivi, il y a ceux qui estiment que c'est vrai, les journalistes peuvent être conscients de bien faire son travail, mais on se rend compte souvent qu'il y a des médias dont les promoteurs essaient d'exiger leur ligne éditoriale par rapport à leurs propres ambitions. Là, c'est pas facile.
Oui, mais il faut dire qu'il y a aussi beaucoup de mauvaises choses, des choses pas vraies qui sont dites par rapport à la ligne éditoriale. Quand on dit une ligne éditoriale, ça veut dire quoi? Une ligne éditoriale ne veut pas dire que dans notre média, notre travail, c'est seulement insulter. Non, la ligne éditoriale, c'est, on va dire, le rendez-vous, l'accord tacite que vous allez avoir avec votre public. C'est-à-dire, moi, je suis un journal sportif. Je vais parler du sport, je vais paraître tel jour, telle heure, et ainsi de suite. Voici ma position idéologique par rapport à X à Y. Une ligne éditoriale ne te donne pas le visa pour insulter, pour vous attaquer sans vous donner, on va dire, la possibilité de pouvoir vous-même contrôler ce que vous dites. C'est comme ça qu'on a toutes ces instances-là. On a la réglementation, on a la régulation pour que on aille, on va dire, à relativiser les poids des responsables politiques qui détiennent notamment certaines stations de radio, certaines chaînes de télévision et certains titres de journaux ici. Les responsables politiques qui détiennent les télés doivent également savoir qu'il y a pas simplement le pouvoir financier qu'ils ont sur les médias, mais il y a aussi des instances qui sont censées contrôler, qui sont censées notamment vérifier ce qui est dit. Il faut regarder par exemple ce qui se passe en France pour l'attribution, par exemple, d'une fréquence pour une chaîne de télévision. On vous attribue cette fréquence pour exercer, puisque la fréquence ne vous appartient pas. La fréquence appartient à l'État. Mais pour vous attribuer, vous apportez un dossier. Hein, ces dossiers-là, on regarde qu'est-ce que vous allez proposer en termes de programme, est-ce que vous avez de l'argent pour payer les journalistes, et qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous apportez de nouveau que les autres chaînes n'apportent pas. Et en fonction d'une analyse détaillée de votre dossier par rapport au public, par rapport au pays, par rapport à la diversité, par rapport à ce qu'il y a déjà comme concurrence, on va vous dire, ok, vous avez les droits d'exercer. Mais si vous n'apportez rien, regardez nos médias. Tous les médias que nous avons, on a des médias qui font pratiquement la même chose dans certains...
Mais c'est si on a de nouvelles réformes que je pense bien que le président du CSA voudrait bien initier dans ce pays. Ça ne veut pas ouvrir une chaîne n'importe comment. Oui. On doit chercher à se rendre compte si vous réunissez tous les moyens financiers, tous les moyens par rapport au contenu. Oui. Et ça permettra un peu de mettre également de l'ordre dans
le secteur. Et le projet éditorial. Et ce n'est pas... On ne vous donne pas une fréquence de manière éternelle. C'est-à-dire votre fréquence, après X temps, après 5 ans par exemple... Vous revenez devant les conseils supérieurs de l'audiovisuel qui regarde votre dossier pour regarder si vous avez encore respectez
le cahier des charges,
mais aussi est-ce que ce que vous donnez est toujours pertinent par rapport à ce que vous avez annoncé comme dossier auparavant.
Voilà, on va avancer, patient Ligodi. Il y a 3 autres auditeurs qui aimeraient intervenir et puis on pourra revenir à vous. Il y a Héritier Waminga, qui est ancien journaliste de la radio communautaire Mwangaza, qui nous appelle depuis Kisangani. Héritier, vous avez la parole, on vous écoute.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue également l'invité qui est au studio. je salue bien l'initiative de mes confrères de Kinshasa se mettre autour d'une table pour parler des droits des journalistes congolais dans le cadre de la Journée internationale d'accès à l'information. Mais il importe de souligner que le secteur journalistique ou médiatique éprouve d'énormes difficultés en RDC. On ne peut plus distinguer qui est journaliste, qui est animateur, qui est chroniqueur, soit encore qui est reporter. Tout le monde se lance dans le monde médiatique sans parfois incarner les valeurs éthiques et déontologiques, source du non-respect des chevaliers de la plume par les services étatiques et à leur attribution la sécurité et la réglementation du secteur. Permettez-moi de prendre l'exemple de médias en ligne. Tout le monde peut devenir journaliste devant son smartphone, dans sa chambre ou dans son salon en train d'enregistrer les émissions. Et dans ces émissions, vous allez voir quoi? Ils sont en train de critiquer les autorités, des fois porter à tête à la vie privée des autres, afin de se faire vedette, soit gagner de vie. Alors, comme proposition, pour que le journaliste congolais soit respecté, il doit tout d'abord assainir son métier et rester comme étant une église au milieu du village, tout en respectant les lignes éditoriales.
Voilà, merci de votre contribution, Ritier Waminga. Vous êtes ancien journaliste de la radio communautaire Mangaza. Merci d'avoir réagi depuis Kisangani. Gilbert Kayumbu, vous êtes expert en développement rural. Vous êtes également en ligne. On m'a pas précisé depuis quelle partie du pays. Vous avez la parole, on vous écoute.
Oui, je suis à Lubumbashi.
Ah, Lubumbashi, merci voilà, vous beaucoup. Êtes bel et bien à Lubumbashi. Voilà, merci Gilbert Kayumbu, on vous écoute.
Oui, moi je vous remercie sincèrement. Je voudrais vous dire que il faut prendre cette question sur le plan des pouvoirs. La presse fait partie du quatrième pouvoir et la presse fait partie également des moyens d'éducation de la masse, et de communication pour le développement. Il ne faut pas mettre l'accent sur les seuls journalistes. Également, cette journée internationale m'inspire. Les droits et les obligations de tout le monde, les droits et les obligations à l'information et les droits et l'obligation à la bonne information, parce que l'ignorance, c'est ça l'ennemi du développement du Congo. L'ignorance ne nous permet pas de renforcer la solidarité entre les Congolais. Je m'en vais vous donner un exemple. Au moment où nous parlons, ça fait plus de 2-3 mois que les éléphants ont assiégé les populations d'Ankoro dans le territoire de Manono. Les autorités nationales, les différents spécialistes des éléphants ne savent pas intervenir parce qu'ils n'ont pas l'information. Et ces populations d'Ankoro dans le territoire de Manono, mais également les populations de Malembankoulou, de Bukama, de Lubudi, de Mitwaba et de Kabalo qui souffrent des éléphants, des hippopotames, ont droit d'informer les autres Congolais pour qu'on vienne les aider à solutionner ces problèmes-là. Donc, nous sommes dans l'éducation diffuse. Ce n'est pas l'affaire du seul journaliste. Et c'est une affaire où il doit y avoir un feedback, une communication de part et d'autre. De sorte que, lorsqu'on a l'information, on renforce la solidarité, on résout les problèmes, on mobilise tous les Congolais et même la communauté internationale à solutionner les problèmes. Donc, la presse, les communications, ce n'est pas l'affaire seulement des journalistes. Et il ne faut pas s'arrêter aux simples textes légaux. Il faut aller au-delà.
Voilà, l'accès à l'information, c'est l'affaire de tout le monde. Patient Ligaudi a également évoqué cet aspect-là. Merci. Gilbert Kayumbu, vous êtes expert en développement rural. Merci d'avoir appelé depuis Lubumbashi. Peter Maboudi, vous êtes à Kinshasa. On vous écoute.
Oui, merci Marcel. Bonjour à l'invité et à tous les autres de Radio Okapi. Je pose le point de vue de mes prédécesseurs en ajoutant un aspect très capital ou important par rapport à ce que l'invité a expliqué, Monsieur Marcel. Je crois qu'il est des devoirs de tout un chacun de nous d'avoir une bonne information, la vérifier et puis la divulguer auprès de nous, la population. Donc, comme mon prédécesseur venait de le dire, le droit à l'information, une bonne, c'est un droit constitutionnellement garanti en RDC. Cependant, nous avons toujours décrié sur vos antennes que le problème majeur de l'information au Congo part d'abord de la conception, de la création même des médias que nous avons dans notre pays. Parce que ce sont des médias qui doivent informer et former la population. Donc, à ce niveau, comme l'invité l'a même souligné par rapport à la ligne éditoriale, nous avons eu le plaisir de fois d'être intervenant sur d'autres chaînes, M. Marcel. Je comprends que On vous impose même des questions que vous devez poser aux invités comme nous. Ici, il y a la liberté d'expression parce que sur d'autres sites comme en France, il l'a souligné, RFI, tout ça. Donc, ce sont les journalistes qui vous imposent, les médias qui vous imposent des questions que vous devez poser aux invités. Donc, comparativement, en RDC, le droit à l'information, la liberté est garantie. Mais néanmoins, on n'arrive pas à distinguer, comme le José Bouaming a souligné, on ne sait pas distinguer qui est nécessairement un journaliste en RDC. Donc, tout le monde se lance dans le journalisme sans pour autant avoir une bonne formation d'abord et des bases, et également aussi le sens même d'analyse, de critique des informations qu'ils exposent à la discussion
voilà,
de la population.
Voilà, Peter Mabudi, dont vous rejoignez, là, Peter Mabudi, là, vous, s'il vous plaît, vous rejoignez déjà ce qui vous ont précédé, c'est-à-dire qu'il faut mettre de l'ordre au sein de la corporation, nous l'avons dit, c'est une tâche à laquelle pense atteler le nouveau comité de l'UNPC. Merci, Peter Mabudi, depuis Kinshasa. On va prendre le tout dernier, Platini Mbombo, qui doit être en Mbandaka. Platini, on vous écoute, vous avez une minute. Qu'est-ce que vous avez ajouté par rapport à ce qui a été dit par ceux qui vous ont précédé. On vous écoute.
Bon, merci. Je salue Marcel, je salue tout le monde, je salue tous les journalistes congolais. Et ensuite, je salue l'invité, bien que je suis en retard. Mais ce que moi, je vous dis, accès à l'information, c'est vraiment, c'est aussi garanti à RDC Congo. Parce que souvent, même si on fait allusion dans nos différentes radios qui se trouvent, même dans la ville de Mbandaka ou dans la province de l'Équateur, là, il se pose maintenant un sérieux problème, Marcel. Je peux vous dire, parce que moi, j'ai un témoignage, moi-même, parce que j'estime, je suis aussi l'homme de la presse locale de Mbandaka, parce qu'il y a un problème qui se passe dans nos différentes radios, et aussi dans les radios, surtout les radios des politiciens. Là, on se pose maintenant un sérieux problème. Et aussi, aujourd'hui, il y a l'état lac où des partis politiques deviennent les journalistes et animateurs des émissions. Là, on se pose un sérieux problème. Alors, moi, je voudrais justement, parce que je suis un peu en retard, je voudrais que l'invité puisse nous aider un peu. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme, une méthode? C'est le gouvernement congolais qu'on a fait estimer au niveau du CESAC, au niveau de l'OMEC, etc. Les organes, les organes de régulation de la presse. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'abord, avant d'installer, de créer toute une chaîne de radio, soit télévisée, soit radio audio, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'abord que les promoteurs de différentes radios puissent d'abord toujours être en règle avec cette coopération, parce que ça pose un sérieux problème.
Voilà, merci. Merci Platini Mbombo, merci. Vous évoquez cette problématique pour ce qui est d'ouverture de chaîne en RDC. On en a également parlé avec notre invité. Voilà, Passion Ligodi, on va conclure. On est presque à la fin de ce numéro des Paroles aux auditeurs. On retient que les avancées sont réelles par rapport à l'accès à l'information. Vous avez parlé de cette ordonnance de loi qui permet en tout cas aux journalistes d'avoir l'accès à l'information et surtout des de cette loi et de savoir, en tout cas, au cas où ils n'arrivent pas à accéder à l'information, de savoir se plaindre, hein, parce que il faut absolument qu'on puisse avoir accès à l'information et surtout que l'information, c'est pas seulement pour les journalistes, mais c'est pour tout le monde. On a suivi un opérateur économique qui a parlé également pour le droit pour les opérateurs économiques d'avoir accès à l'information, et vous avez également insisté sur de l'offre qu'il faut mettre au sein de la corporation, mais également du rôle qu'il doit continuer à jouer le CESAC.
Et aussi insister sur le fait qu'il existe une proposition de loi sur l'accès à l'information publique qui est une loi générale qui ne concerne pas que les journalistes, qui concerne tous les citoyens et qui doivent demander de compte à ceux qui dirigent la cité. Et ces textes-là est toujours à l'Assemblée nationale depuis 2020 et ils n'avancent pas. Le travail à faire aussi, c'est d'arriver à obtenir que ces textes-là puissent être alignés pour permettre aux citoyens d'exercer leur responsabilité dans le contrôle de la gestion de la chose publique, mais aussi dire que l'ordonnance loi du 13 mars 2023 sur l'exercice de la liberté de la presse, ce n'est pas tout, c'est une avancée. Il faut travailler et exiger, travailler pour améliorer notre démocratie. Parce qu'on dit toujours que le vote, la démocratie, c'est évidemment la main qui va voter, mais c'est aussi cette main qui va écrire la liberté de la presse. Bon, on ne peut pas aller toujours voter, reproduire les mêmes tares si on n'arrive pas à éclairer les votes par notamment la lumière de l'information plurielle et diversifiée.
Et peut-être un rapide, un petit mot par rapport à votre ouvrage, que les gars des médias en RDC, pour ceux qui sont intéressés, c'est pas seulement des journalistes. Hein.
En fait, non, c'est pas que le journaliste. Je parlais notamment de la population dans son ensemble, et aussi des journalistes, les magistrats, les chercheurs en communication. Et c'est un début de débat pour nous tous.
Passion Ligodi, journaliste et enseignant journaliste, mais c'était un plaisir pour nous de vous recevoir dans ce magazine des paroles aux auditeurs. On espère vous retrouver prochainement.
À très bientôt.
Fin de ce numéro de paroles aux auditeurs des 6 jours. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Lengoy qui est à la mise. On a Julie Feza Bungonda qui l'a réalisé et coordonné au micro. C'était Marcel Ngomomba. Le plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro de paroles aux auditeurs d'ici là. Bon suivi de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.